entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, nous sommes aujourd'hui avec monsieur Jean-Philippe Morel, adjoint à la ville de Dijon, à la maire de Dijon, qui va nous présenter tout de suite ses délégations avant que nous commencions cette interview.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis en charge de l'engagement citoyen, du devoir de mémoire, du lien armée-nation et également du monde combattant, c'est-à-dire principalement des anciens combattants.
Alors peut-être dire un mot, puisque ça se passe aussi dans les collèges et les lycées, un mot sur le travail autour de l'armée-nation.
Le travail autour de l'armée, en tout cas du lien armée-nation à Dijon, passe beaucoup avec les classes défense. On a la chance, dans l'éducation nationale à Dijon, particulièrement dans certains collèges et lycées, d'avoir des classes défense qui sensibilisent les jeunes à toutes ces problématiques. Et on fait un travail avec des historiens qui, notamment, nous ont beaucoup aidés pour les fameux pavés de mémoire qu'on a décidé d'installer dans les rues de Dijon.
Il rappelait que les pavés de mémoire concernaient notamment des juifs qui ont été arrêtés et emmenés dans les camps d'extermination et qui malheureusement sont morts assez rapidement dans ces camps. Peut-être revenir sur les points emblématiques. Il y a eu beaucoup d'événements très importants autour de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 2024-2025, puisque nous sommes au milieu de l'année 2025. Peut-être rappeler les moments qui pour vous sont clés et significatifs et qui ont amené beaucoup de monde d'ailleurs à suivre ces événements.
Les années 2024 et 2025, qui est déjà bien entamée, ont été des années évidemment mémorielle de la plus haute importance, tant au niveau national que local, puisqu'il s'agissait évidemment du 80e anniversaire de la libération du territoire national, je dirais de l'Europe, et aussi du retour pour nous de la République, puisque c'est cela dont il s'agit. Donc un gros travail mémoriel avec des dates phares qui ont commencé à Dijon, si on reprend les choses un peu chronologiquement, par une cérémonie organisée le 29 février 1944 en souvenir d'un simulacre de procès qui s'était tenu dans la salle la plus emblématique du palais des ducs de Dijon, c'est-à-dire la salle des états de Bourgogne, où les SS et une cour martiale nazie avaient organisé un simulacre de procès de résistants qui ont été condamnés à mort et fusillés le lendemain matin à Montmusard. C'était un moment très fort autour d'un moment mémoriel, mais aussi un moment de réflexion, parce que tout passe par la réflexion, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'être tourné vers le passé sans se donner des moyens d'agir pour demain, autour d'un colloque sur l'état de droit, sur ce qu'était l'anti-procès nazi, puisqu'évidemment il correspondait à rien, si ce n'est juste le terme procès, à ce qu'est un procès dans notre société démocratique moderne, c'est-à-dire le respect des droits de la défense, et aussi évidemment c'est un procès qui a été porté par des valeurs qui ne sont pas les nôtres, ça va de soi, celle de l'exclusion du racisme et de l'antisémitisme.
Je crois que c'était un élément phare, un exemple phare. On ne va pas rentrer dans les détails, surtout que sur Radio Shalom, nous avons fait beaucoup d'interviews, de reportages sur l'ensemble de ces événements, où ont été d'ailleurs mêlés et où sont intervenus beaucoup d'étudiants, beaucoup de lycéens, beaucoup de collégiens, pour des travaux remarquables sur cette période, avec notamment effectivement des historiens et des enseignants du secondaire. Là, nous sommes effectivement au milieu de l'année 2025. Quels sont les points sensibles et les moments importants qui pourraient avoir lieu en 2025 et 2026, puisque ça passe très vite et qu'il y a des événements, et je pense notamment à l'entrée au Panthéon de M. Badinter, à l'entrée au Panthéon de Marc Bloch, mais qui sera l'année suivante, en 2026. Les pavés de mémoire dont vous avez parlé, peut-être comment la ville pense aujourd'hui, même si tout n'est pas bouclé.
Alors dernièrement, on a terminé la séquence du 80e anniversaire de la libération, le 8 mai dernier, où on a eu un très bel événement mémoriel, familial, tourné vers l'avenir, au fort de la Motte-Giron, qui a attiré près de 4500 personnes. On a ouvert le fort, ce qui n'est pas si fréquent, le fort de la Motte-Giron, et une vraie attente des Dijonnais autour de choses qui font sens, et ça nous donne l'idée évidemment de l'année prochaine de refaire et de pérenniser un événement chaque 8 mai à Dijon. Le matin, il y a les cérémonies mémorielles et patriotiques, mais d'en faire un, j'irais de donner une dimension beaucoup plus large l'après-midi pour accueillir le maximum de Dijonnais. Nous avons, comme vous le rappelez, effectivement, la panthéonisation à la fois de Robert Badinter, je crois, le 9 octobre prochain, et de Marc Bloch. Dijon réfléchit à organiser quelque chose déjà autour de la figure de Robert Badinter, et ensuite nous réfléchirons autour de celle de Marc Bloch, qui est un historien qui était évidemment de haute importance. Robert Badinter a un lien particulier avec Dijon, puisque en tant qu'avocat, il a plus d'une fois plaidé à Dijon, et notamment la cour d'assises de la Côte d'Or dans les années 70, quand il était... je dirais le héros, pas héros H-E-R-O-S, mais le héros porteur de l'abolition de la peine de mort. Et peut-être qu'un espace public ou une esplanade portera le nom de Robert Badinter à cette occasion. C'est quelque chose qui est dans nos pistes de réflexion, en tout cas de faire quelque chose pour marquer cette panthéonisation de Robert Badinter.
Très bien. Et puis, nous avons aussi parlé des pavés de mémoire. Je crois qu'il y a une continuité. Ça qui est intéressant à Dijon, c'est qu'on a eu déjà deux étapes importantes. Est-ce qu'il y aura une troisième étape ?
Tout à fait. En 2024, François Rebsamen, en 2025, Nathalie Kunder ont inauguré deux séries de pavés de mémoire dans l'hyper-centre-ville dijonnais. C'est un travail qui est porté, on parlait des classes défense, par des historiens, professeurs d'histoire-géographie à Dijon, et qui nous ont permis de faire un travail remarquable, un travail de mémoire, la mémoire dans la pierre, c'est-à-dire de marquer dans l'espace public dijonnais ce qui fut le drame, l'enlèvement et l'assassinat de juifs qui ont été arrêtés, déportés et qui ne sont pas revenus. Et l'année prochaine, nous avons de nouveau une première liste de 23 personnes qui ont été arrêtées, assassinées. Nous allons élargir un petit peu, c'est-à-dire qu'on a aussi des figures féminines de la résistance sur lesquelles les classes défense commencent à travailler. On pense refaire en 2026 et peut-être même en 2027, parce que c'est un travail pédagogique évidemment du plus grand intérêt, qui se fait avec des classes. Et donc si on peut associer plusieurs classes sur deux années, c'est encore mieux. Ça fera travailler plus de lycéens sur ce beau projet participatif, historique et plein de sens.
Tout à fait. Il faut rappeler d'ailleurs que la ville a pu mettre en exergue le travail fait justement par les jeunes, des lycéens et des collèges, et qu'un travail remarquable pour rappeler le parcours et la vie des gens qui ont disparu dans cette période extrêmement, extrêmement difficile. Nous parlons donc de mémoire, de transmission, avec l'idée dans l'enseignement, mais je pense aussi évidemment dans votre délégation, que cette transmission et cette mémoire servent à réfléchir et empêcher le retour de systèmes politiques totalitaires et qui pourraient nous ramener à des périodes historiques extrêmement, extrêmement dangereuses. Et aujourd'hui, il y a la question des mémoires et de la concurrence des mémoires qui vient en force, en lien avec évidemment des évolutions politiques un petit peu complexes, avec des formes d'extrémisme qui se développent ici ou là. Comment faire pour que les jeunes, les très jeunes, retrouvent du sens au fait de vivre ensemble, d'être à l'école ensemble dans notre beau pays, dans une société quand même qui est libérale et démocratique. Donc comment travailler, que faire en matière de mémoire pour qu'on puisse associer l'ensemble des enfants et que tout le monde se sente intégré dans cette démarche. Je pense aux harkis, je pense aux rapatriés, je pense à la période de l'esclavage, etc.
C'est sûr qu'il faut, à mon sens, affronter toutes les mémoires. Regarder notre passé, sous bénéfice d'inventaire peut-être, pour reprendre une fameuse formule, mais avec ses côtés obscurs, ses côtés glorieux, ses côtés héroïques. Et on le sait, il y a des fractures de mémoire. Des mémoires qui se télescopent, mais je pense qu'il faut aborder tout cela sans tabou, sans censure, absolument refuser la censure. Il serait parfaitement scandaleux qu'on ne puisse pas, aujourd'hui, dans les établissements scolaires, parler de la Shoah. C'est un non-sens absolu qu'on s'auto-censure sur certains sujets pour plaire ou pour pas déplaire à certains. Il faut affronter les choses telles qu'elles se présentent, telles que l'histoire se présente à nous. Parce que le passé regorge d'enseignements. Et si on se refuse à entretenir la mémoire, on va tomber dans l'oubli. Et cet oubli est porteur de tragédies nationales. Car les clés de compréhension du monde d'aujourd'hui pour les plus jeunes citoyens passent par la connaissance de la mémoire. L'histoire, le détour par l'histoire est finalement la clé pour comprendre l'actualité d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est figé dans le passé, c'est porteur de sens du présent, l'histoire.
On peut dire d'ailleurs qu'un certain nombre de professeurs qui veulent être dans le déni affrontent les élèves, au sens propre, parfois verbalement, bien entendu, puisque certains élèves sont dans le déni ou sont agressifs à partir d'éléments d'histoire qui ont beaucoup d'importance pour eux, en tout cas dans leur vie émotionnelle et intellectuelle. Et en fait, quand on affronte les choses et qu'on les dit vraiment, on voit que les jeunes sont prêts à débattre, même ceux qui paraissent les plus agressifs. Donc effectivement, peut-être revoir un peu, non pas les programmes, c'est pas le rôle de notre radio de parler de ça, mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire et qu'on est loin du compte, puisqu'aujourd'hui, se développe des visions binaires où il y aurait le Grand Sud qui serait la victime sacrificielle d'un Occident tout puissant et arrogant et qui aurait réduit le monde en esclavage. Et je crois qu'il faut sortir de cette espèce de pensée réductrice, qui n'est pas d'ailleurs une pensée, de ce slogan, pour permettre aux jeunes quand même d'arriver à une pensée nuancée, à une véritable connaissance de la complexité de l'histoire de l'humanité, comme vous le disiez.
L'histoire est évidemment complexe, les choses sont rarement binaires. La citoyenneté, c'est donner déjà à faire des citoyens, c'est donner des outils de compréhension. La citoyenneté, c'est le débat, c'est la réflexion, c'est donner de la matière. Et je pense quand on aborde les choses d'une manière rigoureuse, avec tout le poids de la science, l'histoire est une science. Il y a des données qui sont travaillées contradictoirement par des historiens et avec le plus grand sérieux. Et c'est à partir de cette donnée brute travaillée par des spécialistes, des professionnels, que l'on peut, à mon avis, parfaitement débattre de tous les sujets sans avoir une vision forcément politique de l'histoire. Je pense qu'il faut d'abord avoir une vision scientifique et rigoureuse des choses, poser les choses telles qu'elles sont. Notre histoire a eu des périodes évidemment très, très, très tragiques, très, très sinistres, qui, avec nos yeux d'aujourd'hui, nous paraissent même abominables. Mais il faut les affronter pour mieux comprendre l'évolution et le progrès. Je pense que ce qui manque aujourd'hui peut-être dans nos débats nationaux, c'est cette notion de progrès. On a l'impression que le progrès, ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui en vogue ou suffisamment valorisé. Pourtant, depuis 1789, le 19e siècle est un siècle de progrès. Le 20e siècle, évidemment, est un siècle tragique, mais qui, à partir de 1946, c'est la construction européenne, c'est quand même une belle république sociale qui est la 4e République, ensuite la 5e République. On avance, je veux dire, il vaut mieux le déclinisme. Pour moi, ce n'est pas quelque chose à laquelle j'adhère. Au contraire, je pense qu'il vaut mieux vivre en 2025 qu'en 1925. Hein, en 1925, on est entre deux guerres, avec la montée des fascismes. On sort d'une terrible guerre où la moitié des hommes sont défigurés dans les rues, où l'espérance de vie n'est pas la même, la sécurité sociale n'existe pas de la même manière qu'aujourd'hui. Et donc, cessons ce discours décliniste permanent, voyons le progrès, l'évolution des choses qui tend quand même vers le mieux, même si évidemment tout n'est pas parfait, je ne suis pas naïf.
Il y a une thématique importante qui est la laïcité, puisque la laïcité est enseignée à l'école notamment, c'est dans notre constitution, c'est un élément clé de la France, une particularité en tout cas française, même si d'autres pays sont laïcs, mais il y en a très peu qui ont cette particularité. C'est un sujet que nous souhaiterions travailler de manière plus profonde, parce que en se rapprochant, nous rencontrons souvent des jeunes dans nos différents travaux et reportages, on s'aperçoit qu'ils ignorent tout de la laïcité. Mais vraiment, donc ils n'ont même pas de point de vue. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'en voient pas l'importance, l'intérêt, etc. Mais on a aussi de plus en plus de jeunes, on le voit dans des sondages très sérieux officiels, de gens qui rejettent cette notion puisqu'ils l'associent en fait à un instrument qui serait opposé, un instrument contre les religions, et donc qui serait une manière de dénier le droit aux personnes de pratiquer et de vivre leur religion. Donc on est quand même dans une situation compliquée. Comment vous imaginez qu'on puisse retravailler sur cette question de la laïcité, notamment avec les jeunes, parce que c'est eux qui vont porter demain l'évolution de notre pays. Est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en tout cas, de votre point de vue, là, à chaud, si je me permets?
Très clairement, c'est un débat passionnant. Il y a du travail et de la pédagogie à avoir. On a l'impression aujourd'hui, effectivement, qu'on est retourné en 1904, un an avant la loi de séparation des églises, et pas de l'église, hein, des églises et de l'État, où... le travail parlementaire au début du XXe siècle, porté d'ailleurs par le Parti radical, grand parti républicain qui a porté l'histoire de la République et qui a installé la République, portant cette loi révolutionnaire de séparer les églises et l'État, était vécue déjà dans ces années-là, si on se replonge dans les débats, comme une loi anti-religieuse, alors qu'elle ne l'est pas. Bien sûr que... l'histoire de notre pays, les paysages, nos villes, nos villages sont marqués par l'Église. L'Église catholique, évidemment, est très visible dans nos paysages parce que c'est notre part d'histoire. Jusqu'en 1789, l'Église catholique était, je dirais, très imbriquée avec le pouvoir central et les pouvoirs locaux, d'ailleurs, seigneuriaux et autres. Et 1789 est une première rupture, un peu mise entre parenthèses par certains moments de l'histoire du XIXe siècle, mais en 1870, la République s'installe de nouveau, et donc sont portées par ce qui pourrait être aujourd'hui considéré comme des gens très à gauche, cette notion de séparer les églises et l'État, parce que c'est le vivre ensemble qui est derrière. On a trop souffert à travers notre histoire des guerres de religion, et on pose un grand principe majeur, c'est la liberté de conscience, de croire, la liberté de croire ou de ne pas croire, où l'État finalement devient totalement neutre par rapport aux religions, il ne reconnaît aucun culte, mais à part évidemment l'Alsace-Moselle, mais si on part s'agissant de notre territoire Bourgogne-Franche-Comté, l'État ne reconnaît aucun culte, aucune religion n'est officielle, et c'est une rupture majeure et qui permet justement à toutes les religions de s'épanouir sur le territoire national, mais bien évidemment avec l'impératif de respecter cette loi qui leur permet de s'épanouir. Et c'est bien cela aujourd'hui sur lequel il faut travailler auprès des plus jeunes, qui comprennent que la laïcité permet justement cela. Sinon, certaines religions, il y a deux siècles, n'étaient pas tout à fait traitées de la même manière.
Alors, c'est vrai que cette loi, d'ailleurs, est un compromis, parce que finalement, l'Église catholique n'a pas tant perdu que ça, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'elle a sa place, qu'il y a des financements pour les bâtiments, qu'il y a des écoles privées confessionnelles sous contrat, évidemment, qui respectent les règles de l'État. Enfin, on voit bien quand même que dans notre pays, il y a quand même beaucoup de souplesse et beaucoup de liberté. On n'est pas dans un pays qui est anti-religieux, c'est très clair.
Bien sûr. Mais les religions, en 1905, étaient farouchement hostiles à cette loi, qui était évidemment une déflagration, un tremblement de terre dans notre histoire millénaire. Les gendarmes mobiles à cheval étaient obligés de rentrer dans les églises pour faire l'inventaire du mobilier cultuel, car il y avait une très forte réticence. Des encycliques papales dénonçaient quand même cette loi, je dirais peut-être considérée comme tout à fait attentatoire aux religions. Donc on a l'impression qu'après un siècle où les choses sont quand même plutôt rentrées, c'est une loi que la République s'est quand même bien appropriée, que ça redevient un débat depuis 15-20 ans, que la laïcité est attaquée, alors déjà par des fondamentalistes, hein, quels qu'ils soient, hein, qui veulent évidemment saper certains fondamentaux de notre République et contre lesquels il faut évidemment lutter avec la plus grande force. Mais ce qui compte, c'est de la pédagogie auprès des plus jeunes, faire des citoyens éclairés. La République, c'est la Constitution de 1946 qui le rappelle, la République française est une République laïque.
C'est vrai que c'est ce qui permet aussi la liberté d'expression avec la liberté de conscience. On l'a vu à travers l'histoire de Charlie Hebdo. Et le monsieur Riss de Charlie Hebdo est venu d'ailleurs faire une conférence très intéressante à Dijon il y a quelques mois. Et il a rappelé l'importance de la laïcité, l'importance du droit de la liberté d'expression en France, qui n'est pas la liberté de faire tout n'importe quoi. D'ailleurs, il a bien rappelé que qu'il est sur la corde raide, que la critique, l'humour, la caricature n'est pas du tout quelque chose qui est forcément agressif et dangereux pour le vivre ensemble, au contraire.
Oui, la liberté est le principe et l'exception, c'est les abus de cette liberté d'opinion. Mais le grand principe, c'est la liberté d'opinion, d'expression.
Très bien, Monsieur Morel, je crois que vous devez vous rendre à une cérémonie qui est importante dans le cadre de vos délégations que vous aviez définies au début de notre entretien. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette thématique de laïcité et bien entendu sur les projets de la ville autour notamment de l'entrée au Panthéon de Monsieur Badinter et de la suite pour les pavés de mémoire. En tout cas, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous et à très bientôt sur Shalom Bourgogne.
Entrevue Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.